Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h34, le débat des grandes voix avec Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
On évoque ce soir avec vous, pour débuter, le changement de pied du gouvernement sur le projet de loi en préparation contre le séparatisme annoncé vendredi par Emmanuel Macron. Eh bien, on apprend aujourd'hui qu'il ne portera finalement pas le nom de séparatisme. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Ce ne sera sans doute pas son nom, puisque le président de la République a évoqué dans son discours quelque chose qui ressemblerait à un projet de loi renforçant la laïcité et les principes républicains. Mm-hmm. Mais l'idée est bien de lutter contre le séparatisme principal, qui est l'islam radical. Mais ce n'est pas le seul objet du texte.
Voilà, ce projet de loi devrait donc finalement s'intituler « Projet de loi renforçant la laïcité et ses principes républicains », mais les mesures resteront les mêmes, nous dit-on. Votre réaction, Gérard Carrérou?
Écoutez, je trouve que c'est fort regrettable et que c'est quand même assez surprenant.
Pourquoi?
Pourquoi est-ce que c'est surprenant? Ben parce que le mot « séparatisme » avait été avancé par le président de la République lui-même.
Oui.
Pas dans le dernier discours, bien sûr il en a parlé largement, mais dans le discours qu'il avait fait auparavant, où il avait déjà donné un certain nombre d'indications sur, et on avait dit, il ne parle plus de communautarisme, et il avait expliqué qu'il préférait le mot de séparatisme.
Mais il est dépositaire du mot.
Voilà,
donc il est
quelque part, il est le créateur.
Il peut aussi s'en séparer.
Au moment où ce mot a fait florès, et où tout le monde s'est mis à l'utiliser pour définir la lutte, en fait, pour définir la lutte contre l'islamisme radical,
oui,
tout le monde s'est mis à parler, parce que le président avait utilisé ce mot, il a dit très bien. Et là, il a reculé. Alors pourquoi a-t-il reculé? En fait, il a reculé d'une... Qu'on comprenne le mot. Il a fait deux pas en avant, si vous voulez. Il a nommé l'adversaire, mais il a reculé.
Est-ce qu'il a vraiment reculé?
Moi, je pense qu'il a reculé.
Il a jamais dit. La vérité sur l'évolution de l'utilisation du mot séparatisme. Il a dit je ferai un discours sur le séparatisme. Oui. Il n'a pas dit je ferai un projet de loi sur
d'accord,
le séparatisme.
Mais on peut jouer. Vous avez le droit de jouer sur les mots et de dire qu'il ne l'a pas vraiment dit, qu'il allait l'appeler comme ça. Moi, je vous dis que mon sentiment et celui de beaucoup de gens est qu'il a reculé. Et pourquoi aurait-il reculé? Simplement parce qu'il a été... Il y a eu des pressions, notamment venues de la gauche, du macronisme de gauche, plutôt oui, que d'ailleurs, disant, attention, vous allez quelque part, avec ce mot, vous allez stigmatiser l'islam, vous allez stigmatiser les musulmans.
Alors,
et du coup, recul stratégique.
Donc recul pour Gérard Carrérou, est-ce que c'est un recul pour Charles Villeneuve? Je précise simplement qu'il ne vous a pas échappé que ce projet de loi sera présenté le 9 décembre, soit 115 ans exactement après l'adoption de la loi de 1905 sur la laïcité. C'est donc un clin d'œil aussi à l'histoire, le fait qu'il renomme ce projet de loi renforçant la laïcité. Mais dans les faits, concrètement, pour les Français, que ça s'appelle séparatisme ou que ça s'appelle projet de loi pour la laïcité, ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Et là, ça ne changera pas par rapport aux mesures annoncées vendredi.
Vous savez, quand vous allez au supermarché, ce qui compte d'abord, c'est l'étiquette. Hein. Avant de manger le plat, vous allez regarder l'étiquette.
Vous avez été le premier à dire il faut des actes et pas simplement des
bien
intentions.
Bien sûr,
donc
mais l'étiquette, des actes. L'étiquette sur la bouteille, c'est quand on achète un bon vin ou un produit, on regarde d'abord l'étiquette.
Moi, c'est d'abord le bon vin qui m'intéresse. Charles Villeneuve.
D'abord l'étiquette.
Ben, le choix des mots est quand même très important dans une affaire de ce type. Et le mot séparatisme est un mauvais choix. Parce qu'il ne s'agit pas de séparatisme. Il s'agit d'entrisme et d'infiltration. Que ce soit Al-Qaïda ou Daesh, ou que ce soit les frères musulmans, qui, eux, s'accommodent de la politique, s'y infiltrent, commanditent et développent une stratégie d'enveloppement politique et législatif, que ce soit dans les associations culturelles, que ce soit dans les mosquées par l'intermédiaire d'imams, de toute façon, qui sont formés tous à l'étranger et payé par l'étranger.
Ça ne sera plus le cas demain, normalement.
Bon, attendez.
Tous les imams seront formés en France.
Attendez,
Ça fait partie des mesures. Ça fait partie des mesures,
Écoutez-moi. Justement, sur les mesures, qui va payer? Pas l'État, puisqu'on nous dit qu'on va renforcer la laïcité. Vous connaissez la loi sur la laïcité? La laïcité, c'est ni de refonder la laïcité, ni d'en modifier les frontières, mais de viser les appartenances communautaires militantes, celles de l'islam politique radical, pour évidemment lutter contre elle. Et la loi sur la laïcité, c'était ça les actes, justement. émis par le président de la République. La loi sur la laïcité à la française proclame la liberté de conscience, garantit le libre exercice des cultes et pose le principe de séparation des églises et de l'État. Donc, en réalité, ce n'est pas renforcer la laïcité, c'est émettre un certain nombre de lois, et notamment sur, puisque vous m'avez posé la question, sur le financement des imams. Or, l'État ne peut pas payer les imams.
Ce n'est pas le financement, c'est la formation. Dire que les imams doivent être formés en France.
Oui.
Après, qui paiera?
Oui.
On verra ce que propose le gouvernement.
Qui paiera la formation?
On verra ce que propose
jusqu'à
le gouvernement.
Jusqu'à présent, c'est le Maroc qui le paie, c'est l'Algérie ou c'est la Turquie.
C'est ce qui pose problème.
Bon, c'est ce qui pose problème notamment parce qu'ils infiltrent tous des imams, de toute façon, radicaux. Or, le problème, si vous voulez, de l'amalgame, il est bien évident que l'islam, c'est une religion. L'islamisme, c'est une idéologie politique.
Politique.
Bon. Et c'est toute la différence. Et quand on dit qu'on veut aussi former les imams pour qu'ils aillent vers un islam des Lumières,
oui.
Or, l'islam des Lumières, l'islam proprement dit, c'est 5 règles de base dans ce qu'on appelle le salat. Le salat, c'est-à-dire la prière islamique qui doit être imposée aux enfants d'Israël et aux chrétiens. Mmh. C'est ça que dit le Coran, la sourate numéro 5. C'est ça qu'elle dit.
Alors,
donc, pour moi, ce sont des fadaises, si vous voulez, l'ambition du président de la République, parce qu'il s'est laissé vraisemblablement convaincre par des gens, de toute façon, qui ne lui ont pas dit la réalité du Coran.
Alors, on reviendra sur le détail des mesures prévues et dévoilées vendredi par le chef de l'État. Et puis, sur ce mot séparatisme, a-t-il ou non son importance, comme vous le disiez, Gérard Carrérou. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on est avec les grandes voix, évidemment, toujours à 18h43, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Et ce soir, on parle de ce changement de pied du gouvernement sur le projet de loi contre le séparatisme qui ne portera finalement pas le nom de séparatistes, c'est ce qu'a dévoilé aujourd'hui Gérald Darmanin. Écoutez d'ailleurs la réaction tout à l'heure de Marine Le Pen, qui a été reçue par le ministre de l'Intérieur.
Il nous semble encore enregistrer des défaillances, très certainement des oublis, sûrement volontaires d'ailleurs. Je pense bien entendu à tout ce qui concerne la politique d'immigration. L'immigration massive est le terreau du communautarisme, qui lui-même est le terreau du fondamentalisme islamiste.
Voilà, Marine Le Pen fait du Marine Le Pen, évidemment, elle est dans l'opposition, oui. Mais elle dit aussi, ça n'est pas dans l'extrait, elle dit aussi, ce qui est assez rare quand même, Emmanuel Macron a pris des mesures de bon sens, ça va dans le bon sens, a-t-elle dit. Alors, les mesures, on les rappelle brièvement, ils ont été dévoilés vendredi par le chef de l'État, instruction à l'école obligatoire, des maires plus contrôlés, la dissolution des associations qui ne respectent pas les valeurs de la République, la neutralité dans tous les transports et pour les agents qui travaillent dans les transports publics, ça veut dire pas de voile, pas de signe religieux pour les agents des transports quels qu'ils soient, et des imams, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, formés en France. Alors, le fait que ce projet de loi ne porte pas le nom de séparatisme, est-ce si grave si le contenu reste le même ? Gérard Carrérou.
Écoutez, on verra d'abord. Je vous répondrai, mais peut-être dans quelques mois, puisqu'on n'aura pas avant le projet de loi tel qu'il est sorti de l'Assemblée nationale.
Le 5 décembre. Mais, on aura la présentation du projet de loi au
Conseil des ministres. Il ira au Sénat, il sera amendé, etc. Mais en tout cas, les mesures sont bonnes. Moi, je l'ai dit ici. J'ai dit, tiens, c'est un discours courageux. Effectivement, les mesures. Alors, il y en a qui manquent. Effectivement, par exemple, sur le voile, j'ai trouvé qu'il restait une ambiguïté. Bon, mais globalement. Les principales, celles que vous avez rappelées, je trouve qu'il a raison et que c'était bien de le dire et que c'était courageux de le dire.
Donc sur le fond, on ne peut pas l'accuser d'être passé à côté de son sujet.
Non, pas du tout. Je l'accuse aujourd'hui. Enfin, je l'accuse. Je lui reproche aujourd'hui d'avoir fait une belle œuvre et au moment où presque il y avait presque un consensus national pour dire oui, cette fois-ci, il est allé vraiment sur le sujet, il l'a traité. Il y a quelque chose, quoi que vous dites. Quoi que vous disiez, quoi qu'on dise, ça sera interprété comme une forme d'atténuation ou de compromis avec des gens qui... Bon, voilà. C'est ça que je pense qu'il y a.
Alors, il y a deux aspects, Charles Villeneuve. Il y a le fait que certains disent, attention, ça pourrait être anticonstitutionnel d'appeler ça séparatisme, parce qu'il y a des sujets très sensibles dedans. Par exemple, le contrôle des associations, le contrôle des cultes, avec la formation des imams. Et puis, il y a une dimension politique aussi. Certains disent, Emmanuel Macron a voulu envoyer le signal de l'union sacrée. Il a d'ailleurs reçu tous les chefs de parti. Et ce nom de projet de loi sur la laïcité vise en fait à rassembler, c'est un peu malin de sa part, disent certains, rassembler tout le monde, du Front National à la France Insoumise, pour adouber le principe de ce projet de loi. Charles Villeneuve.
Non mais moi, le mot de séparatiste, je vous ai dit que je le discutais. Il est normal qu'on le supprime parce qu'il ne correspond à rien. le séparatisme, ce sont les indépendantistes basques ou corses qui veulent se séparer de la République de la France. Ça, c'est du séparatisme. Eux, c'est de l'infiltration, c'est tout à fait autre chose. Alors, l'articulation des lois...
Aurait-il fallu l'appeler, ce projet de loi ?
L'entrisme.
Idéalement.
L'entrisme de l'islamisme. Ça, c'est le bon mot. Et peut-être serait-il passé au niveau du Conseil constitutionnel. Mais peu importe. C'est vrai que ce qui compte d'abord, c'est la panoplie de lois dont certaines, d'ailleurs, vont être certainement anticonstitutionnelles. Ne serait-ce notamment que l'enseignement à la maison, hors cadre. Vous savez que cet enseignement est reconnu constitutionnellement. Et qu'il y a d'ailleurs un article, décision du Conseil constitutionnel.
Oui.
Un arrêt qui supprime à un moment donné l'un des aspects de la loi, notamment celle de Chirac quand il a interdit le voile il y a 25 ans. Bon.
Il y aura quelques exceptions tout de même pour les enfants qui présentent un handicap ou qui sont en situation difficile.
Je parle sur le plan général, pas sur le plan de la santé, si vous voulez. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a mis 25 ans pour pondre une panoplie de lois. Ça fait 25 ans qu'on subit des infiltrations. Je vous rappelle notamment l'attentat à la préfecture de police, où finalement tout le monde avait plus ou moins... aperçu l'évolution du fameux tueur au couteau. Et finalement, quand il a tué 4 policiers, dont une policière, on s'est aperçu qu'en effet, ça faisait déjà plusieurs années, 3 ou 4 ans, qu'il avait largement évolué, qu'il ne saluait pas les femmes. C'est ça l'infiltration. C'est ça, si vous voulez, l'entrisme.
Mais pour trouver un nom, parce que poser la question de quel nom, bon, on peut imaginer tous les noms qu'on veut, mais moi, il me semble qu'un nom simple comme projet de loi pour une république une et indivisible, ça inclut. Parce que la notion de séparatisme, c'est ceux qui veulent créer une contre-société à côté de notre société régie par nos lois.
Vous savez qu'on verra, parce que le projet de loi...
Du séparatisme, ça. C'est une prise de pouvoir.
Mais ça veut d'abord dire se
changer.
Oui, non, mais ça veut dire
c'est
se séparer et pour créer autre chose.
Oui, non, mais pour changer la société.
Pour créer autre chose.
Oui. C'est pas fini, parce que le nom du projet de loi peut encore évoluer. Gérald Darmanin s'est avancé ce matin, mais c'est le président de la République qui décidera. Oui.
Mais Darmanin, moi je l'ai regardé quand il disait ça plusieurs fois, et j'ai trouvé que Darmanin... Il semblait qu'on lui avait soufflé à l'oreille.
Ah oui.
Parce que je pense que Darmanin n'aurait pas changé, n'aurait pas fait
bien,
ce pas.
Évidemment.
On marque une nouvelle pause, on se retrouve dans quelques secondes. Le Covid qui rend fou, tiens, on en parle juste après la pause, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h51, on est toujours ensemble avec les grandes voix, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. On évoque maintenant la crise du Covid qui rend fou. Dernier exemple en date, la passe d'armes sur un plateau de chaîne info entre deux spécialistes, entre le docteur Martin Blachier qui alerte sur une seconde vague et le scientifique Jean-François Toussaint, co-signataire d'une tribune pour dénoncer les mesures disproportionnées selon lui du gouvernement. Et ça donne ça.
Je vous ai dit depuis le début que vous vous étiez trompé.
C'est vous qui dites n'importe quoi.
Je vous ai dit depuis le début que vous
avez
annoncé
une
deuxième vague pour le mois de juin, pour le mois de juillet.
Il se passe quoi là ?
Il n'y en a pas eu.
Il se passe quoi là ? Grand spécialiste du Covid. Qu'est-ce qui se passe ?
Je vais vous montrer. Mais c'est du très haut niveau. Continuez. On va parler de définition. Ça, ce serait une deuxième vague que vous nous avez annoncée à chaque fois depuis le début.
C'est tellement minable.
C'est la même.
C'est tellement nul.
S'il vous plaît, docteur Machi.
Non, mais c'est la même.
Vous pouvez utiliser d'autres mots peut-être.
Voilà. Ambiance sur le plateau de CNews, Gérard Carrérou, c'est le symbole tout de même d'un débat qui rend fou. Alors, on imagine après que les Français qui ont déjà du mal à s'y retrouver n'y comprennent absolument plus rien. Deux scientifiques de renom s'écharpent sur les chiffres et sur la stratégie à adopter, c'est incompréhensible.
Ben oui, surtout, d'autant plus que dans cette crise, et je crois que c'était après tout une bonne idée, le président de la République avait créé son fameux comité scientifique pour justement prendre des avis scientifiques. Alors, on se disait, le gouvernement, pour une fois, ne fait pas les choses en dehors de la réflexion des scientifiques. Il demande au contraire les scientifiques. Et là, on entend d'éminents spécialistes s'engueuler sur publiquement. Évidemment, on n'y comprend plus rien parce que déjà, on a du mal à comprendre la réalité de cette maladie. Au début, on pensait que ça durait peut-être 6 mois. On s'aperçoit maintenant qu'on parle de plusieurs années. On n'a toujours pas de traitement, etc. Et les médecins, normalement, dans une société normale, c'est un peu comme autrefois les curés. Imaginez quand les curés s'engueulaient, on disait « il faut faire un concile, parce que c'est pas possible ». Et bien là, les médecins qui devraient être des référents, des références oui. pour les Français, ne sont plus des références, puisqu'ils se traitent effectivement de menteurs, de nuls, etc.
En même temps, la médecine n'est pas une science totalement
oui,
exacte.
Oui, en même temps, mais s'il n'y a plus de référent, il n'y a plus...
Bon. Surtout quand on est face à un ennemi comme le Covid. Alors, j'entendais le professeur Flao, grand spécialiste de la modélisation mathématique des maladies transmissibles, qui disait, voilà, on ne peut pas nous demander la plus grande transparence et en même temps nous refuser de porter le débat dans l'espace public, Charles Villeneuve.
Oui, mais enfin, quand on écoute l'extrait qu'on vient d'entendre, parce que ça a duré quand même quelques minutes pour ceux qui l'ont vu, ce qui apparaît, si vous voulez, au volume Pécus dont nous faisons partie, c'est que la science à qui l'on attribue une certaine unité, une certaine même pureté, j'irais jusqu'à dire pureté, à l'inverse de la politique, à l'inverse même de nos gouvernants, oui. finalement sont tout aussi divisés oui. que les politiques. Et ce qui complique la tâche, de l'exécutif.
Mais pardon, je vais faire une analogie un peu de comptoir de café, mais quand vous avez besoin de vous faire opérer du genou, il y a un médecin qui va vous dire, et un chirurgien qui va vous dire, faut opérer tout de suite mon petit monsieur, puis un autre qui va vous dire, non, de la rééducation, ça suffit. Donc, c'est pareil, il n'y a pas de vérité dans la science.
Non, vous avez raison. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Vous savez ce qu'on fait dans ces cas-là, en général ? Si on n'a pas envie de se faire opérer, on cherche d'avoir des deuxièmes ou troisièmes opinions de gens qui partagent votre opinion et vous ne faites pas opérer.
Oui,
c'est à peu près comme ça que ça se termine.
Oui, non, mais là où
mais
je ne suis pas d'accord...
Attendez, là, c'est,
là,
non,
là,
c'est une
tout
plaisanterie.
À fait différent.
Mais bien sûr,
là,
mais c'est
si
une plaisanterie.
Veux, toute l'opinion publique est anxieuse
mais bien
et
sûr.
Débousselée.
C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre ça.
On voit d'éminents chirurgiens, d'éminents professeurs, agrégés ou pas, se disputer comme ils le font, de toute façon, vous parliez d'un comptoir de bar au comptoir de bar, même oui. s'ils sont fermés l'instant.
C'est un peu niveau comptoir de bar, là, ce qu'on entend.
Mais absolument. Eh bien, ça, personnellement, en tout cas, ça me désoriente.
C'est irresponsable.
Et je me dis, finalement, ce Covid, est-ce qu'il faut le prendre de sérieux ou pas ? Ben, j'en sais rien quand je les écoute.
Bien, et on aura l'occasion, évidemment, d'y revenir. Merci à tous les deux, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve.
Europe 1, Julien Bugier.
Dans un instant, on se retrouve avec le journal de 19h, Isabelle Millet, juste après le grand débat du Club des Idées. Ce soir, cette question, faut-il interdire les SUV qui polluent, paraît-il, de plus en plus ? On en parle avec nos invités. À tout de suite.